Et bonjour tout le monde, on est mercredi et cet après-midi c'est quartier libre pour moi, c'est-à-dire je travaille avec la nouvelle formation rédacteur pro, je suis pris tous les jours, mais là cet après-midi, tranquille, je vais pouvoir faire le ménage et puis mes courses. Non, je plaisante. Bon, j'espère que vous allez bien de là où vous êtes et aujourd'hui on va parler de quelque chose. Alors moi je me base toujours un peu sur ce que je vis au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai répondu sur LinkedIn, j'ai répondu à quelqu'un, gentiment, hein, j'essaye, toujours, j'espère. J'essaye aussi de plus être passif-agressif, parce que ça, j'avais un peu tendance à l'être, et j'aime pas ça, j'aime pas quand c'est chez les autres, alors j'essaye de l'enlever chez moi aussi. À quelqu'un qui expliquait gentiment à son public la différence qu'il y avait entre un copywriter, qui l'était, bien sûr, et un rédacteur. Quelle était la différence copywriter-rédacteur ? Oh, je vois un homme qui promène un furet en laisse. Alors ça, c'est pas banal. Bon, va falloir que je gère mon chien, parce que ça, mon chien, il connaît pas. Enfin, je crois que c'est un furet. Ah, ou c'est un basset. Bon, il est peut-être encore un peu loin. On verra. Bref, en tout cas, copywriter-rédacteur, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et je peux le comprendre, parce que on cherche des étiquettes, et on va d'ailleurs faire un petit tour du côté de toutes les étiquettes du rédacteur web. Je vais vous expliquer un peu comment moi je positionne les choses, histoire que vous ayez de la réponse par rapport à ça. Bonjour. Bon, ça va, je surveillais un instant, mais Oli n'est pas allé au contact. Parce que déjà, le mec soulevait à moitié son chien pour pas qu'il s'approche. Donc je pense que Lia s'est dit, bon, là, c'est pas la bonne ambiance. Donc c'était bien un chien et pas un furet. Mais c'est chouette, les furets. Bref, copywriter, rédacteur, c'est une question quand même vachement importante. Je sais pas pour qui, en fait. Parce que nos clients s'en foutent, en fait. Et éventuellement, peut-être pour les rédacteurs qui ont tendance à mettre l'étiquette de copywriter, ce qui stresse les copywriters qui, eux, essayent de capitaliser sur ce terme-là. Donc, je ne me sens pas forcément hyper compétent sur le sujet du copywriter. Parce que, déjà, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs objectifs. Ça n'a pas le même sens quand c'est à l'intérieur d'une agence que quand c'est en autonome à l'extérieur. Ça n'a pas les mêmes moyens. Souvent, c'est aussi des gens qui ne sont pas formés et qui se sont auto-décrétés copywriter parce que ça claque, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a des professionnels du copywriting qui les regardent et qui se disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette personne se désigne de mon métier alors qu'elle n'en a pas les compétences ?» Les rédacteurs web, ben, c'est un peu la même danse, c'est-à-dire que je trouve très rarement des rédacteurs web qui savent définir leur métier. Juste définir, donner une définition de leur métier. Ça me semble... C'est bizarre qu'on soit dans un métier qui n'a pas de définition claire et officielle. Pompier, on s'occupe d'éteindre des feux et de sauver des gens. Ok. Mais rédacteur, on écrit des textes. Non, ça c'est rédacteur tout court. Rédacteur web. Ah ben on écrit des textes qui vont sur internet. Oui, non, c'est pas suffisant. Parce que ça, n'importe qui peut le faire. Où est notre compétence ? Donc finalement, c'est un peu la question que ça pose quand quelqu'un nous demande c'est quoi la différence entre un copywriter et un rédacteur ? Outre le fait que le copywriter a des tarifs, normalement, qui sont bien plus élevés. Je dis normalement parce que la plupart des copywriters, en fait, ont des tarifs de rédacteur en réalité... Parce qu'ils ont des compétences de rédacteur. Parce que s'ils avaient les compétences de copywriter, ils vendraient leurs textes hyper cher et tout le monde leur courrait après. Bref, on va rentrer un peu dans la définition. Donc, mon Dieu, c'est compliqué. Alors, on va déjà essayer de cartographier un peu les choses. On va essayer de faire une espèce d'arborescence. Telle que je la définis, moi. Mais les mots, vous verrez, ont des sens différents en fonction des endroits d'où on parle. Par exemple, je vais utiliser le mot communication, qui est pour moi un essentiel philosophique, mais qui, dans le cadre de Bonjour.
Pouvez-vous
prendre le chien chez vous? Oui, bien sûr. Allez, allez. Bref. Une femme qui a peur de son chien qui est un peu réactif. Voilà. Donc, quand une personne du marketing utilise le mot communication, à cet endroit-là, bonjour. Bonjour. Eh bien, ça a un sens promotionnel. Faire une communication pour une entreprise, c'est le fait de parler de ses promotions, faire des offres commerciales notamment. Donc, ça n'a pas le même sens. Mais alors, je vais essayer de ramener le sens au fur et à mesure que je le pose. Mais j'essaye juste de vous faire une arborescence pour que vous puissiez comprendre comment moi je vois les choses. Et ça n'est que moi. Donc moi, je place le mot communication tout en haut. C'est le domaine. Il y a le domaine médecine. Il y a le domaine alimentaire, il y a le domaine santé, enfin pas santé publique, mais bon, voilà. Vous avez des domaines différents, puériculture, etc., etc. Et vous avez un domaine, c'est communication. C'est un domaine professionnel, domaine d'activité, domaine social. Mettez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. La communication, ça va être, pour moi, résumé à la transmission d'un message entre un émetteur et un récepteur. C'est comme ça que je définis la communication. Vous allez voir, on prend un peu le temps, mais je vais vous faire ça propre. La communication, donc, a plusieurs moyens d'expression. Le journal papier en est un, le courrier, les SMS, le téléphone, les discours publics, etc., etc. On a le web, les sites internet. Donc, on a cette catégorie qui existe, communication sur Internet. Là-dedans, on a des sous-parties encore de gens qui communiquent et on a le marketing qui est donc pour moi un enfant de la communication. C'est une manière de communiquer. Le marketing, je le définis d'une manière très basique et volontairement très allégée pour permettre des interprétations circonstancielles. Donc, le marketing, c'est la communication entre deux entités dont une ou les deux sont des entités morales qu'on appelle des marques. D'accord ? Donc, une marque parle à un humain, c'est du marketing. Ça paraît un peu simple, hein. Le mot marketing pourrait faire penser à marque, mais en fait c'est market, marché, business. Et la marque en anglais, c'est branding. Mais néanmoins, le marketing, c'est toutes les actions qu'une marque applique dans une communication vers un individu, mais j'accorde aussi le B2B, c'est-à-dire vers d'autres marques, c'est possible aussi, et qui permet des échanges de messages qui ont des portées donc, sur les objectifs de la marque en elle-même. Bonjour. Autrement dit, une marque a besoin d'argent pour vivre, elle a besoin de légitimité, elle a besoin de commerce, elle a besoin de liens, elle a besoin d'exister. Elle communique pour ça et on appelle tout ce champ-là avec toutes ses variations, tous ses objectifs, tous ses tunnels, toutes ses stratégies, on appelle ça le marketing. Et vous imaginez que c'est une catégorie. Donc dans l'idée qu'une marque communique avec un individu, ben, on va avoir la notion de communication par l'écrit qui va être donc la rédaction web. Donc tout ce qui est écrit est différent de la vidéo, de l'infographie, du design, de l'UX, qui sont d'autres moyens d'expression. Bon, là, on est dans la communication écrite de marque, de marketing. Et vous voyez que je n'ai pas encore vraiment nommé les choses. Déjà là, vous pourriez dire « Ah, la rédaction web, c'est nous !» Non. Ah, j'ai été un petit peu ferme, là. Non. La rédaction web est une catégorie. Et c'est là où on va avoir un problème de dénomination. Mais il y a bien une différence entre un copywriter et un rédacteur web. Il y a bien une différence dans leur fonction. mais ils sont au même niveau l'un et l'autre. Et c'est tous les deux des enfants de la rédaction web. La rédaction web est le domaine dans lequel ces deux-là travaillent, avec le storyteller, avec le rédacteur, tout court, avec le rédacteur communicant, avec l'expert, avec etc., etc. Toutes les formes de rédaction écrite, avec leurs objectifs, le ghostwriter aussi, dernièrement, qui est rentré dans le lot, le community manager, qui est là aussi. Donc toutes les formes de communication par l'écrit rentrent dans le champ rédaction web. Donc c'est vaste. Et là-dedans, il y a le rédacteur web SEO, on va le placer là. Lui, il écrit des textes qui ont pour principal objectif de développer une amélioration des classements SEO. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement qu'on les trouve plus facilement sous les bonnes requêtes, que ce soit bien organisé, qu'il n'y ait pas de frein SEO, etc., etc. Donc le rédacteur SEO, on lui demande d'écrire des choses juste pour le SEO, normalement. D'accord. Le rédacteur web expert, lui, on va lui demander d'écrire des choses spécialisées à l'attention d'un public spécialisé. D'accord. Le rédacteur web plus classique, celui qui répond au briefing sans particulièrement de compétences, on va continuer à lui demander une multitude de petits éléments concernant les fiches produits ou des sites PBN ou des choses un peu secondaires. Très bien. Le copywriter, c'est quelqu'un qui écrit au nom de quelqu'un d'autre et normalement, il est formé au marketing pour pouvoir décrypter les valeurs de la marque et les incarner dans les discours. Je vous avoue que je n'ai pas encore rencontré un copywriter qui fasse bien le boulot de ce côté-là. Néanmoins, ils sont... Ils se sentent inspirés et puis ils pensent qu'ils ont du talent. Donc, ils y vont comme ça. Mais il manque peut-être la dimension diplôme professionnel, compétences, marketing, stratégie, incarnation. Bref, des éléments en plus, mais c'est pas grave. Pardon, je digresse un peu, mais souvent, on est face à des gens qui prennent un titre, mais pas les efforts qu'il faut pour avoir le titre, ni les promesses inhérentes à ce titre. Les promesses que les clients peuvent espérer. Donc, ça fait des clients déçus, et ça me frustre toujours énormément. Mais bref, là-dedans, il y en a encore deux que je n'ai pas placés. Alors, le storyteller, je le place aussi vite fait. Le storyteller n'est pas un rédacteur en tant que tel, c'est, on va dire, un chef d'orchestre, d'une certaine manière. Il écrit plus un compositeur. C'est pas encore le chef d'orchestre, lui, c'est le content manager ou l'architecte de contenu. Mais le storyteller, c'est quelqu'un qui va poser l'ensemble des éléments de communication, l'histoire, les valeurs, les personas, les buyer personas, le sens de la démarche, la vision, l'obstacle, la mission d'une marque. C'est vraiment quelqu'un qui va bâtir une identité profonde. Vous savez, pour faire une digression dans une autre direction, J.R.R. Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, a écrit ses romans, mais il était linguiste à la base. Et en fait, il a voulu, pour s'amuser ou pour un travail universitaire, je ne sais pas trop, il a voulu écrire, inventer des nouvelles langues. Donc il a voulu inventer le nain, il a voulu inventer l'elfique, il a voulu inventer l'orque, etc., etc. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas bâtir une langue sans bâtir une histoire. Donc il a commencé par écrire l'histoire de tous ces peuples. Et donc il a fallu qu'il bâtisse le monde des terres du milieu et le monde en entier pour après raconter l'histoire et l'évolution pour pouvoir enfin réussir à créer les langues. Et c'est parce qu'il avait une maîtrise absolument folle de cet univers dans lequel il avait déjà écrit une vingtaine de livres et pour définir une dizaine de langues qu'il a un jour, pour un de ses enfants, petits-enfants, pardon, écrit Bilbo le Hobbit, parce qu'il avait, il avait tous les éléments de cet univers. Et face au succès, il a écrit le reste. Mais c'est pour vous dire qu'il faut une histoire pour pouvoir bâtir une langue. Reprenez ça au niveau du marketing. Il faut une histoire pour qu'une marque existe, pour qu'elle ait une personnalité. Donc ça, c'est le storyteller qui ne raconte pas d'histoire malgré le nom, mais qui définit l'histoire qui sera racontée, y compris chez les rédacteurs web et tous les autres corps de métier qui vont faire émerger l'histoire sous forme d'interprétation. D'accord, il y a peut-être une marque qui est réactive sur un sujet particulier et qui a envie de dénoncer quelque chose ou de se positionner face à une injustice particulière. Et donc, le rédacteur va incarner cette colère sans avoir besoin de répéter l'histoire. C'est une incarnation de l'histoire. Quand quelqu'un vous dit pourquoi tu t'énerves, vous dites pas tout petit déjà, j'étais... Non, vous racontez pas l'histoire. Vous expliquez juste ce en quoi vous croyez. Donc, le storyteller travaille avec le rédacteur dans le sens où c'est lui qui lui donne la chair à incarner. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Il m'en reste donc deux. Il me reste le rédacteur web communicant, celui que je défends depuis longtemps dans le cercle des rédacteurs, que je vois comme étant l'aboutissement, la place exacte du rédacteur web, et le copywriter de l'autre côté. Donc le rédacteur web communicant, c'est un rédacteur web qui est formé au SEO, bien sûr, de manière suffisante, qui est formé également au marketing et qui est formé à la communication. Donc c'est quelqu'un qui a une approche, on va dire, globalement marketing des choses. Ok, si par exemple, en fait, il doit écrire un texte SEO, il va se demander quelle est la requête sur laquelle il doit se positionner, il va se demander quelle est la problématique, ce qu'on appelle le pain point de la cible, il va se demander quel est le point de réalisation et comment ça fait du lien avec sa marque, et il va surtout étudier le tunnel de vente, parce que le rédacteur web communicant travaille essentiellement sur le tunnel de vente pour faire avancer les gens, les faire vivre des choses, travailler des ouvertures, les faire circuler à l'intérieur, travailler sur les freins, etc. etc. En gros, quand il a fallu l'expliquer, à un moment donné, j'expliquais que le communicant, c'était une fois que la personne est sur le site, une fois que le visiteur est sur le site, il se passe quoi ? Qui s'occupe de le réceptionner ? Qui s'occupe de lui faire bon accueil ? Qui s'occupe de le former, de lui apprendre des choses, de le rassurer, de lui donner une bonne intentionnalité ? Pour qu'il continue son voyage à l'intérieur du site ou qu'il reparte avec des éléments du site, qui s'occupe de ça ? Pas grand monde. Donc, pour le coup, c'est le rôle du rédacteur web communicant. Il réfléchit en matière d'accueil et d'incarnation, la marque, pour la faire transparaître et se faire identifier par le visiteur. Vous voyez, en gros, c'est lui qui va s'occuper de réceptionner la personne dans de bonnes conditions et de l'amener au fur et à mesure dans le tunnel de vente. Donc on a un tunnel de vente qui est quand même un élément très important. Les sites internet sont des tunnels de vente. Ça peut être autre chose, ça dépend, mais globalement c'est des tunnels de vente. Une boutique vous amène à acheter des choses. C'est ça sa finalité. Donc il y a des chemins qui mènent à cette chose. Et ces chemins sont... remplis d'étapes qui sont informées, rassurées, motivées, etc., etc., pour pouvoir réussir à amener à la vente. Bien. Le copywriter, quant à lui, donc, arrive après le rédacteur. Dans le sens où le copywriter a des points de basculement, en quelque sorte. Il a les pages de vente, il a les landing pages, il a les get content, il a éventuellement la newsletter, et encore pas la newsletter qui permet de faire du lead nurturing, c'est-à-dire pas celle qui permet de juste garder le lien et puis avoir un bon contact et puis discuter ensemble, tout ça. Non. On parle de la newsletter qui va dynamiser la vente, qui va travailler spécifiquement sur la vente. C'est celle-là qui nous intéresse. Donc, cette newsletter, en fait, celle qui est au quotidien et qui permet juste à la marque d'exister, d'être vivante, ça c'est le rédacteur web qui s'en occupe, et la newsletter qui déclenche des ventes, qui fait des séquences de ventes ou ce genre de choses, ça c'est le copywriter qui s'en occupe. Donc le copywriter, il est capable de produire des idées, des stratégies, de conversion. Il est capable de travailler sur des pages de vente avec des techniques PPPC, AIDA, Bob Stone ou j'en sais rien, de travailler sur des stratégies de conversion. Et il travaille normalement en collaboration avec le rédacteur web communicant en disant sur le site, là, ce qu'il me faudrait, c'est des call to action à cet endroit. À cet endroit, il faudrait que je puisse poser une boîte de dialogue là. Il faudrait que je puisse faire rentrer les gens dans un tunnel de séquence de mails là, etc., etc. Donc, en gros, c'est des compétences qui s'imbriquent tout ça. Les territoires sont délimités. Le rédacteur web communicant peut s'amuser à faire une page de vente, mais c'est le copywriter qui normalement s'en charge. La différence entre les deux, alors je vous parle d'un idéal, hein, parce que je connais très peu de copywriters, à part ceux qui sont dans les agences, qui travaillent donc à ce point de conversion-là et qui ont les outils pour le faire. Normalement, le copywriter, il pose des KPI, c'est-à-dire des balises, des indicateurs d'efficacité, en gros, qui permettent de savoir si oui ou non la personne, enfin la page convertit comme il faut et qui va retravailler avec des tests A/B, avec des stratégies de conversion, avec des réadaptations, qui va revenir tous les mois pour refaire un check, analyser le trafic, voir la qualité du tunnel de conversion et voir si la conversion fonctionne bien. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir un suivi de son travail, qui ne va pas livrer son texte et se barrer, parce que ça, c'est un rédacteur, ce n'est pas un copywriter. Donc, le copywriter est quelqu'un qui va s'impliquer, ce qui justifie son tarif aussi. Quand on paye une page 1000 euros chez un copywriter, normalement, il est prévu qu'il revienne régulièrement pour l'améliorer plusieurs fois, pour réussir à atteindre un score de conversion, et c'est là où on le paye, c'est qu'il y a une promesse derrière, normalement, il y a un score. Donc ça, le rédacteur web n'est pas compétent là-dessus. Hein. Le rédacteur web, il théorise la relation, éventuellement, il va chercher des éléments. En plus, aujourd'hui, il travaille avec ChatGPT, et donc il a des analyses assez poussées dans le domaine du marketing, pour pouvoir vraiment savoir ce dont on a besoin ou pas, et donc le copywriter, lui, va utiliser le même matériel marketing, souvent d'ailleurs, ben, c'est le client qui distribue ça en disant voilà, on a travaillé avec une agence de com où j'ai défini la stratégie de com, je vous la donne. Tout ce qui n'est pas point de conversion, c'est le rédacteur qui rédige. Tout ce qui est point de conversion, c'est le copywriter qui rédige parce que le copywriter s'engage à un résultat. Bon, voilà en gros comment les choses devraient se délimiter. Maintenant, on n'est pas sur des métiers protégés. Donc, en fait, tout le monde fait n'importe quoi. Les gens n'ont pas de définition claire de territoire. Ils n'ont pas de frontières. Alors, souvent, on a ce genre de postes un peu bêtes qui sortent. Je vais vous expliquer la différence entre le rédacteur web et le copywriter. Sauf que quand c'est un copywriter qui écrit, ben, le rédacteur web, oh, ben, il est là que pour le SEO, hein, et puis lui, il est là pour augmenter le trafic, hein, c'est tout ce qu'il fait. C'est pas vrai. Et quand c'est le rédacteur qui explique ce qu'est un copywriter, il diminue également la responsabilité du copywriter en disant « Oui, c'est lui qui fait des pages magnétiques avec des mots magnétiques, qui fait du magnétique et donc finalement les gens achètent. » Ben non plus en fait, non. On n'utilise pas de mots magnétiques, ça c'est des termes ben, de copywriter pour vous vendre des formations à la con. Mais en gros, le copywriter déploie les éléments de communication nécessaires au passage à l'action. Il y a un call to action à la fin, c'est ça ce qu'on veut. Et pour ça, ça nécessite une étude très approfondie de la marque, de sa cible, des valeurs, des promesses, des objectifs, du pain point, etc., etc. C'est vraiment des gens qui vont pousser très profondément l'analyse. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Donc le copywriter, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur la dimension vente. Et c'est quand même une sérieuse différence. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de métiers comme ça où les gens ne comprennent pas où se trouve le point de talent, je ne sais pas trop comment dire, la compétence spécifique. Un rédacteur web communicant, c'est quelqu'un qui répond à plusieurs questions. Il répond à la question à quoi sert le texte, à qui s'adresse le texte, que résout le texte, quel est l'effet dont on a besoin pour le tunnel de vente dans lequel est ce texte. Il pense une relation. Il travaille une relation par l'écrit d'un objet écrit à un visiteur qui le visite. Il travaille pour ça très étroitement, le rédacteur web, avec le designer, qui va définir les espaces de texte, mais en fonction aussi de ce que le texte doit apporter et avec l'accord du rédacteur qui organise son texte. Donc les deux travaillent ensemble. Normalement. Le copywriter rejoint la petite bande pour définir le chemin que les gens vont emprunter pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent sur les points de jonction, les passages à l'action, les ventes, les stratégies qui vont derrière. Voilà comment les choses devraient se passer. On a l'intégrateur qui orchestre les pages, qui lui aussi est là, et qui va définir un peu le chemin UX, qui va travailler là-dessus. Et vous voyez bien que ça ne se marche pas sur les pieds, tout ça. Chacun d'eux travaille à une tâche qui leur est absolument spécifique. On a le community manager qui s'occupe, quant à lui, de développer une relation à la marque en dehors du site, et qui permet d'augmenter les passages à l'action vers le site quand il y a des raisons d'aller vers le site. D'accord ? Le community manager reste sur les réseaux. Il utilise et épouse tous les codes des réseaux. Il génère une fidélisation, une image de marque positive, et en gros, il travaille à une espèce de réservoir communautaire qui est capable d'aller vers la marque quand c'est nécessaire. Donc c'est une forme de publicité vivante, en gros. Donc il y a plein de gens qui pensent que le community manager est là pour vendre ou alors pour envoyer vers le site. Non, 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 c'est pas son job. Son job, c'est de susciter de l'engagement sur la marque. Et ça, c'est une compétence qu'aucun des autres qu'on a cité avant n'a. Alors après, on a le ghostwriter. Quant à lui, lui, il a fait une fiche éditoriale extrêmement poussée client pour réussir à l'incarner comme on incarnerait une pièce de théâtre, un personnage dans une pièce de théâtre. Et il va développer une posture, il va développer un discours, il va développer des réactions pour susciter une image de marque positive autour du personal branding de quelqu'un. C'est pas nouveau, c'est pas exceptionnel, mais le ghostwriter a un énorme travail d'analyse à faire et d'échange avec son client pour pouvoir réussir à faire ça. Et moi, je connais pas beaucoup de ghostwriters qui ne font pas que passer une heure au téléphone pour papoter avec le client avant d'y aller, mais qui font toute une analyse sur papier de la marque, de la communication, des objectifs de la marque, du positionnement du personal branding, des enjeux, des valeurs de cette personne, etc. J'en connais pas. Donc, tant mieux si vous faites ça, mais en ce moment, il y a plein de gens qui se jettent sur l'étiquette ghostwriter en pensant que c'est le Saint Graal, mais non. Non, c'est pas ça. Donc voilà, et il y a... Ça me fait réfléchir tout ça, parce que vraiment, il y a aussi toute la catégorie des gens qui écrivent sur LinkedIn, mais qui ne sont pas community managers, qui ne travaillent pas sur la communauté, qui ne travaillent pas non plus en ghostwriting, qui juste sont payés par des entreprises pour balancer des posts et faire des campagnes. Donc ça, c'est encore un peu, c'est encore un autre truc. Je ne sais pas quel est le nom de ça. Et je ne sais pas après pour le reste, mais vous voyez un peu le positionnement de chaque chose. Donc on n'est pas sur des métiers qui ont besoin de se définir ou qui ont besoin de se limiter. Ils sont assez naturellement en place. La seule chose qui était importante à comprendre dans la définition du rédacteur web, c'est que les textes que le rédacteur web écrit pour les sites internet, quand il est SEO, ben, on a des objectifs SEO, mais très souvent, en fait, ben, c'est les clients qui donnent les conditions SEO parce qu'il y a un référenceur qui se balade quelque part et qui donne des consignes. Donc, le rédacteur web n'est pas SEO à partir du moment où il respecte les consignes d'un référenceur. C'est le référenceur qui est SEO. Le rédacteur web fait ce qu'on lui dit. C'est un exécutant à ce moment-là. Mais quand il est un peu autonome et que les clients ne font pas appel à un référenceur, mais font appel à lui, il y a encore un élément que je dois donner à cet endroit-là, c'est pourquoi les clients font appel à un rédacteur SEO plutôt qu'à un référenceur? Pourquoi les gens vont chez un boulanger pour le banquet du mariage plutôt que chez un traiteur professionnel spécial mariage? Je ne sais pas. Le rédacteur SEO n'a aucun outil qui lui permet de faire une analyse comparative concurrentielle par rapport aux autres marques sur les requêtes données. Il va chercher les requêtes, il va écrire pour ces requêtes, mais il n'a aucune idée de ce qu'il fait en termes d'efficacité purement concurrentielle. Pour faire simple, si jamais vous essayez d'écrire des choses à propos du rédacteur web, que vous essayez d'émerger sur la requête rédacteur web, il y a 3 gros sites qui se baladent avec plus d'un millier de textes sur les rédacteurs web. Vous n'avez pas les moyens de passer devant eux. Mais si vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas utilisé d'outils qui vous permettent d'analyser les concurrents et de savoir quelle est la charge de ces gens concernant les champs sémantiques sur lesquels vous voulez travailler, bah vous ne pouvez pas gagner. Alors quand c'est rédacteur web et que c'est vous, bon bah, le monde s'en fout que vous n'y arrivez pas. Mais quand un client vous paye pour un résultat, et que s'il avait payé un référenceur, le référenceur lui aurait dit « Waouh, attends, il y a vraiment des gros trucs devant, hein. Ça va être vraiment compliqué d'aller les chercher, on va plutôt partir sur de la longue traîne », et que là, vous, en tant que rédacteur web SEO, vous dites « Ouais, je vais te faire une dizaine de textes sur ce sujet-là, tu vas passer devant tout le monde », et qu'il y aura bien un petit effet, pas grand-chose, mais il y aura un petit effet. Bah, je pense qu'il faut être un peu honnête aussi par rapport aux clients et leur dire « Moi, je peux t'orienter dans la direction que tu veux, je peux te faire un trafic naturel basé sur l'investissement que tu fais, je peux alimenter et te faire maintenir au-dessus d'une ligne de flottaison sur certaines positions, mais je ne peux pas te faire gagner la course. Parce que juste, moi, je suis aveugle. Je peux te dire de quel côté vient le vent, mais je ne peux pas te dire quelle distance il va falloir faire. Donc, il y a des limites de ce côté-là, vous voyez ? C'est comme les copywriters qui ne posent pas de KPI. Ils vous disent « J'ai écrit une page magnétique, tu vas voir, ça va vendre à mort. » Et puis quand on vient les revoir en disant « Bah en fait, ça ne vend pas », ils disent « Ouais, mais en fait, c'est parce que le reste du site est pourri. » Ils n'ont pas tort, mais en fait, ils auraient dû englober ça immédiatement dans leur proposition. Ils auraient dû s'engager sur le résultat en disant « Je veux également pouvoir driver les éventuelles erreurs qu'il peut y avoir sur le site pour assurer le succès de la conversion. » Et là, on a une nouvelle branche qui s'appelle le CRO, qui est basée sur les stratégies de conversion et qui va commencer par analyser tout le site pour découvrir ça. Alors là-dessus, on est sur des choses un peu subtiles et n'importe qui de bon sens pourrait s'en sortir du moment qu'il a une approche marketing. Donc on en a quand même quelques-uns dans le lot qui ont une approche marketing. Le community manager en a une, le rédacteur communicant en a une, le copywriter en a une. Voilà, et éventuellement le designer. Les autres, c'est plus usage et... Ouais, c'est surtout usage. Mais voilà, donc dans l'approche marketing, ça peut relever du bon sens juste de regarder un site et de dire ben, « J'ai parcouru le site, j'ai fait 3 pages et puis j'ai été paumé alors que je suis parti. » Il y a un problème, c'est que je me suis perdu parce que le site n'est pas bien conçu. Donc il faudrait revoir la conception même du site. C'est pas forcément très compliqué ce truc-là. Et après, comme d'habitude, on a un niveau correct, un niveau bien et un niveau championship. Ok, championship, on engage des gens qui ont des très grosses compétences, qui utilisent très très bien des outils particuliers, qui sortent de la data, qui sont capables d'en tirer de la science et qui appliquent la science. D'accord ? Là, on est sur du championship. Mais là, c'est pas les mêmes budgets. Là, c'est des gens qui viennent nous dire « J'ai besoin de 800 textes sur 4 cocons sémantiques, plus encore des branches là-dessus, et puis revoir ça, etc. » Le designer ou l'intégrateur, il va retravailler la structure, on va lever les freins, on va envoyer une équipe CRO, on va demander au copywriter de retravailler toutes les pages de vente et le tunnel de vente et de le questionner, parce que c'est aussi son boulot d'analyser le tunnel de vente. Donc, on est sur ces choses-là. C'est le problème, c'est quand les marchés sont trop petits et les clients pas assez exigeants et qui vont demander à un rédacteur web d'être pâtissier magicien en gros. Donc d'en faire, d'aller au-delà de sa ligne de compétence. Et donc pour le coup, quand il y arrive à peu près, c'est-à-dire quand son client lui dit « Ouais, c'était bien !» Mais pas qu'il y a du résultat. Je veux dire, on n'est pas sur des gens qui font de la grosse performance de résultats. On est sur des gens juste qui sont félicités par leurs clients. Ben, ils rajoutent ça dans leur stratégie LinkedIn en disant « Oui, je suis également designer, je suis également spécialiste, content, je ne sais pas quoi. » Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ouvre leur page LinkedIn, je vais voir leur niveau de formation. Il n'y a rien. C'est des gens qui ont eu 3 expériences positives. Il n'y a pas de stage non plus en agence. Il n'y a rien, c'est pas vrai. Donc vous voyez un peu tout le problème qu'on a par rapport à tout ça. D'accord, j'exagère un peu, vous avez raison de me le dire. J'exagère un petit peu et finalement, en fait, comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller de tout ça? Essayez de définir ce que vous savez vraiment faire. Travaillez là-dessus. Les étiquettes, c'est bien, mais ça ne parle pas plus à vos clients. Je veux dire, quand un client cherche un copywriter, il ne sait pas ce qu'il cherche. Vos clients, ils ont des souhaits. D'accord ? On va parler d'eux pour terminer. Vos clients, ils ont des souhaits. Ils viennent vous dire « Je voudrais avoir plus de trafic. » Et vous, vous leur répondez mal. Vous leur dites « Il vous faut plus de texte. » Non, il leur faut un référenceur. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans la stratégie de dire à votre client « Ok, moi je suis rédacteur web, ce que je peux faire c'est passer après à un référenceur et dans un premier temps il va peut-être falloir faire un chèque à un référenceur pour qu'il fasse une analyse concurrentielle de votre site pour savoir comment il se positionne et qu'est-ce qu'il lui faudrait pour se positionner mieux. Donc là, j'ai vu plusieurs fois des rapports de référenceurs, bon de très grands référenceurs et j'imagine que les autres fonctionnent à peu près pareil. On a des pages sur les améliorations à faire sur le site même où on vous dit de réécrire les URL, de restructurer, de remettre les 301 en place, de corriger les 404, de rajouter les H1, de mettre des métadescriptions à droite à gauche, de rajouter des contenus sur certaines pages, bref, des rapports Screaming Frog un petit peu améliorés. Screaming Frog, c'est un logiciel qui vous scanne des sites et qui vous envoie tous ces rapports-là. Ce qui fait que si vous voulez améliorer un site, ben vous utilisez Screaming Frog et il va vous relever tous les problèmes techniques. Et après, il y en a pour des heures, mais vous avancez en tout cas. Et de l'autre côté, ben vous avez, vous pouvez dire, le référenceur va aussi dire, ben voilà, vos concurrents par contre, ils ont tout ça, ils ont tant et tant de textes, ils font tant et tant de choses, ils ont tant et tant de trafic, vous êtes positionné à telle et telle distance d'eux. Si vous voulez passer devant, il vous faut d'un côté tant et tant de textes en plus, et de l'autre côté, il vous faut des backlinks, donc on va aller chercher des backlinks, on va aller chercher des spots, et vous allez produire, payer ces backlinks pour pouvoir réussir à augmenter le SEO général de votre site, et on va essayer de passer devant eux, voilà à quel prix j'estime le passage. Donc hop, il y en a pour 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 balles, j'ai vu des chèques de 200 000 balles passées parfois pour ce genre d'objectif parce que c'est la fortune si on passe devant. Donc il y a des gens qui font la course, qui sont championship. Donc voilà, le référenceur va faire une proposition qui parfois est beaucoup plus humble que ça. D'ailleurs, le client va lui dire « j'ai pas la thune, fais-moi une proposition plus humble ». Il l'a fait. Et voilà, on démarre comme ça. Vous voyez ? Et c'est en fonctionnant de cette manière-là que vous restez à votre place. En disant, il faut que vous allez chercher tel ou tel professionnel. Le client qui vous dit, j'ai besoin qu'on augmente mes ventes, donc je voudrais que vous réécriviez mes pages de vente, soyez gentil, lui faites pas de mal, dites-lui que vous ne savez pas faire ça, et qu'il faut aller voir un copywriter, parce que lui va mettre en place des KPI, faire une analyse marketing, travailler sur une stratégie de conversion, travailler sur des argumentaires, réussir à faire des landing pages qui permettront en plus de balancer de la pub payante. Landing page, c'est la page d'atterrissage, c'est-à-dire quand vous cliquez sur une pub Google, vous arrivez sur une page spéciale sur un site qu'on appelle la page d'atterrissage ou la landing page et qui est conçue spécialement pour vendre. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments sur lesquels le copywriter peut agir avec une vraie stratégie. Et souvent, il touche aussi à Google, la publicité, ou Facebook, la publicité, ou voilà, il fait du targeting, c'est-à-dire qu'il sait cibler les clients idéaux et les faire venir, et donc on lui file des enveloppes de publicité, et puis lui, il a travaillé toute la conversion jusqu'au bout, et il augmente les ventes, et c'est pour ça qu'on le paye cher, c'est là où il est intéressant. D'accord. Donc, quand le rédacteur web connaîtra bien les métiers autour de lui, ce qui n'est pas si compliqué, mais il faut passer un peu de temps dessus. Nous, on met ça dans nos cours, parce que ça nous semble essentiel de définir les postes de chacun, mais vous pouvez le faire de votre côté. Hein. Vous cherchez à chaque fois que vous tombez sur un nouveau nom, genre Netlinker, ou Juice Manager, ou qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Enfin bref, ils en inventent tout le temps. Mais vous vous dites, ok, à quoi ça sert ? C'est quoi leur spécialisation ? Où est-ce qu'ils sont bons ? Et éventuellement, vous essayez de choper un contact. Là où j'adore, c'est quand j'ai déjà été contacté par quelqu'un qui était community manager et qui disait « Ouais, je connais pas le métier de rédacteur web, viens, on se téléphone, tu me racontes. » Et puis après, on fait ça et puis on devient copain. Et puis après, quand il a besoin d'un rédacteur web, il m'appelle. Donc vous pouvez prendre le téléphone et dire « Ouais, il paraît que tu es community manager, tu veux pas me raconter ce que c'est que ce métier ?» Bon, vous risquez d'être déçu parce qu'une fois sur deux, vous tombez sur des clowns qui savent pas ce que c'est. Et qui font ça parce qu'il y a moyen de se faire un peu de fric, mais qui ont la flemme d'étudier, la vraie flemme de faire leur boulot comme il faut, parce que c'est plus facile de gruger le client en lui disant qu'on sait faire, et le client, de toute façon, n'a pas la compétence de dire non, donc on l'arnaque. Mais il y a des clients qui coulent à cause de mauvais investissements. Moi, je ne sais pas. Je me souviens d'un client, c'était une grosse boîte, très grosse boîte, qui nous a pris en grippe en plein milieu du contrat parce que, je sais pas quoi, on leur avait remonté un truc qui leur foutait un peu la honte. Ils nous ont virés et ils ont engagé une agence spécialisée dans leur domaine et ils nous ont rappelé un mois plus tard pour dire « réécrivez tout ce qu'ils ont fait, c'est de la merde ». Et moi, je suis scié à chaque fois. Je veux dire, pourquoi une agence qui a la chance de travailler avec des très grosses boîtes ne fait pas l'effort minimal de faire un truc de top qualité ? C'est pas si compliqué et ça permet de pérenniser le poste. Donc on se forme, on va se former. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Comme ça, on devient bon. Comme ça, on fait tous les efforts qu'il faut parce qu'on vise un résultat. C'est ça qui serait merveilleux. Mais en tout cas, donc les rédacteurs web, on peut les comparer à ce qu'on veut. Il faut déjà savoir délimiter nos compétences. Connaître les métiers des autres, savoir en quoi les autres ont des compétences que nous, on n'a pas, et les reconnaître auprès de nos clients. L'énorme problème qu'on a depuis longtemps, c'est qu'on dépend d'autres métiers. On dépend du référenceur pour avoir les stats SEO, qui nous permettent de savoir quel terme on utilise. On dépend de l'intégrateur ou du designer pour les maquettes, pour savoir comment on écrit nos textes. On dépend du community manager pour savoir quoi faire ou quelles sont les tendances, etc. Bonjour. Pas du tout. et on dépend de tout le monde, y compris parfois du copywriter, pour pouvoir écrire des trucs. Et pourtant, personne ne s'occupe de notre champ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on écrit, comment on l'écrit, à qui on parle, de quoi on parle, comment on leur parle, pourquoi on leur parle. Toutes ces choses-là, en fait, personne n'a notre expertise sur ces questions-là. Donc, tous les textes qu'on fait, on est les seuls à pouvoir les faire. Bon, c'est là aussi où je rappelle que ChatGPT vient de changer la donne assez profondément. Parce que quand il y a une analyse marketing à faire et qu'il fallait avant se baser sur un marketeur, vous deviez passer avant par quelqu'un d'autre que vous deviez faire rentrer dans la boucle pour votre client. Maintenant, si vous vous y connaissez, je le redis, hein, parce que ChatGPT n'est pas meilleur que les compétences maximales de la personne qui l'utilise. Il est à la hauteur de son utilisateur. Quand quelqu'un vous dit « ChatGPT fait de la merde », ça veut dire « cette personne fait de la merde ». Elle n'est pas capable d'expliquer à ChatGPT comment bien travailler parce qu'elle ne sait pas comment on travaille bien. Donc c'est là où ça ne sert à rien d'apprendre ChatGPT. Apprenez-vous à faire du bon travail. L'expliquer après ChatGPT, c'est facile. Enfin, c'est assez facile. Voilà. Mais en tout cas, vous devez savoir reconnaître ce qui est bon ou pas. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà, les rédacteurs augmentés sont avant tout des rédacteurs communicants aujourd'hui. Qui utilise ChatGPT. Mais ChatGPT, il est capable de faire l'analyse marketing, il est capable de donner des éléments de requêtes, de recherche sur, euh, sur le SEO, il est capable de placer et de concevoir des titres SEO pertinents et des choses comme ça, de respecter des règles SEO assez strictes et assez efficaces. Il peut vous permettre de déployer un cocon sémantique en moins d'une journée, un cocon de 50 ou 100 pages, un truc bien foutu, bien écrit, pertinent, efficace. Il peut le déployer très rapidement, pour peu que vous, vous ayez le niveau pour bien le renseigner, bien le documenter, savoir le positionner d'un point de vue marketing, savoir résoudre les pain points, identifier les difficultés de vos visiteurs, afin que les gens cliquent sur les liens que Google va distribuer et que donc l'effet SEO soit réellement là. C'est là où vous pouvez devenir excellent. Et c'est là surtout, j'en discutais ce matin en MP avec un élève, je lui disais, le nouveau marché qui vient de s'ouvrir, c'est les 99% de gens qui ne passent jamais commande à un rédacteur web parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert, ni ce que c'est, mais qui ont besoin d'aide. Nous, on arrive avec ChatGPT et on ouvre ça en disant, on va vous faire une petite étude marketing, on va vous expliquer ce qu'on fait, on va déployer toute une stratégie. Vous allez savoir exactement combien on investit et pourquoi est-ce que ça va marcher, comment est-ce qu'on va déployer ce truc-là. On va tout vous expliquer et on va dérouler. Et c'est là où tout change. Le rédacteur web augmenté, qu'on appelle aussi architecte de contenu, est quelqu'un qui commence à squeezer les autres métiers, en partie parce qu'il peut s'adresser directement à un client final. Il n'a pas besoin de mettre des intermédiaires entre. Avec ChatGPT, il peut remplacer, partiellement en tout cas, pour un marché qui n'est pas le marché des champions, hein, on est d'accord, là il faudra quand même des champions, mais il peut remplacer beaucoup de gens pour déployer, par exemple, tout seul, tout un site internet. Avec ChatGPT, il peut écrire toutes les pages, par exemple les fiches produits. Avec le marketing et l'analyse marketing de ChatGPT, il peut déployer les pages services. Il peut même un peu mieux définir les produits ou les services. Il peut travailler sur la communication, il peut créer une identité de marque. Il peut faire ces choses-là. Et s'il est bon, s'il sait faire, il peut déployer des pages de vente. Sauf qu'il lui faut également le KPI, il faut également surveiller, il faut également optimiser. Il faut travailler ces choses-là. Donc, en fonction des besoins, on appelle le copywriter ou pas. Bref, voilà, je vous ai donné un peu de matière autour de ça. J'avais envie d'aller un peu dans la réponse, un peu plus en profondeur de ces discussions que j'ai. Moi, j'ouvre LinkedIn, je vois des posts qui me font sauter en l'air. Je donne des petits conseils à droite à gauche en espérant créer les petites graines, que ce soit des gens qui disent que ChatGPT fait du duplicate content à chaque fois et que donc c'est un danger, ça fait partie des trucs. Voilà. Je passe mon temps à ouvrir et à refermer après avoir laissé des messages. Et de temps en temps, je me dis, ben ça, c'est peut-être une question que beaucoup de gens se posent, la différence entre le rédacteur et le copywriter. J'espère que maintenant, c'est plus clair pour vous. Et je vous dis à bientôt. Et je comprends bien hein, que le BDSM, ce n'est pas un sujet qui vous a intéressé. Il n'y a quasiment personne qui a écouté le podcast. Quand je pense que je l'ai fait écouter à 3 personnes pour m'assurer qu'il était viable et acceptable. Enfin bref, voilà. Vous voulez de la rédaction web ? Vous en avez. Je suis là, j'assure, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que les dimanches, j'ai le droit de parler de ce que je veux. Donc si j'ai envie de parler de BDSM, je le fais. Allez, à bientôt. Bye bye !